Sous la rue d'Ulm, les yeux ont des oreilles. Épisode spécial JDR, littérature et guerre. Alors que l'Empire des historiens contrôle les programmations de la journée, les littéraires rebelles réclament leur indépendance, tentant de faire triompher de beaux textes et des musiques pas sérieuses du tout, sans respecter aucune chronologie. Réunis en une troupe de lecteurs à quatre voix, ils font fi du thème de la 3e JDR et expulsent le mot radio de leur intitulé, contrairement à ce qui est annoncé sur le programme. Battons une brève revue des troupes. Donc Caroline, qui parle d'elle-même à la troisième personne, responsable du script, des transitions et des textes en anglais. Bonjour, je ne suis pas folle, vous savez. Willem, amateur de défis de lecture, genre les phrases si longues qu'il risque de s'asphyxier entre deux virgules, qui animera la discussion.
Bonjour, supercalifragilisticexpialidocious.
Camille, aux beaux cheveux bouclés, qui a déniché la pépite du jour, et elle vous l'aurait peut-être lu en VO si elle parlait chinois. Suspense, suspense. Ensemble, nous donnons des oreilles à vos yeux en pratiquant la lecture à voix haute. Et aujourd'hui, un intrus, espion de l'Empire, s'est glissé parmi nous, Thomas l'historien, dont nous comptons bien extraire toutes les informations utiles avant de le laisser pourrir dans une geôle.
Tremblez que l'Empire ne contre-attaque. Bonjour à tous.
Vous voyez, je suis de très bonne humeur. Alors, il y a une petite tradition dans notre émission qu'on fait en général à la fin, c'est lire le t-shirt porté par Robin qui enregistre notre émission. Et donc aujourd'hui, c'est bien sûr Maxime à la régie, mais Romain est présent dans le public. Donc, je vous décris son t-shirt.
Ouais.
Bonjour Romain. Merci. Donc, sur fond de collage blanc et noir, il y a une espèce de smiley en jaune fluorescent. Et il y a marqué en vertical, The Smith, et à l'horizontale, normalement, Destruction is Creation.
Un beau t-shirt.
Un très beau t-shirt, tout à fait dans le thème. Alors, en bref, comme c'est l'heure du goûter, vous pouvez arrêter de vous prendre la tête et vous laisser bercer par la douce cadence de nos voix.
C'est beau.
Réunis, coupés et organisés pour votre plus grand plaisir, bande de vénards, les textes qui suivent nous ont marqué nous comme ils ont marqué l'histoire littéraire, inaugurant une nouvelle façon d'écrire la guerre et de la transmettre aux générations futures. Liminaires dans leur genre, époque et style respectifs, ils ont pourtant persisté bien au-delà et mettent en perspective les guerres et la guerre dans la littérature. Bon, nous à Lio, on lit à peu près tout et n'importe quoi, comme ceux qui connaissent mes lectures insolites peuvent en attester. Donc si des auditeurs veulent laisser des commentaires sur la pop-up, on les lira avec grand plaisir à l'antenne, quel que soit le contenu, je précise.
Risqué.
On prend un risque là.
C'est dangereux ça.
C'est pas grave, on est courageux. Et avant de lancer les réjouissances, les Martiens attaquent la Terre à la radio. I shit you not. Vous inquiétez pas si vous comprenez rien, quoique une traduction va être projetée derrière moi. Pour ceux qui ont des bons yeux. Sachez seulement que l'envoyé spécial Carl Phillips vient de décrire les affreux extraterrestres avec leurs tentacules et leurs yeux froids.
We now return you to Carl Phillips at Grover's Mill.
Ladies and gentlemen, my aunt. Ladies and gentlemen, here I am, back of a stone wall that adjoins Mr. Wilmer's garden. From here, I get a sweep of the whole scene. I'll give you every detail as long as I can talk and as long as I can see. More state police have arrived. They're drawing up a cordon in front of the pit. About 30 of them. No need to push the crowd back now. They're willing to keep their distance. The captain's conferring with someone. Can't quite see who. Oh, yes, I believe it's Professor Pearson. Yes, it is. Now they've parted, and the professor moves around one side, studying the object while the captain and two policemen advance with something in their hands. I can see it now. It's a white handkerchief tied to a pole. Flag of truce. If those creatures know what that means, what anything means. Wait a minute, something's happening. A humped shape is rising out of the pit. I can make out a small beam of light against a mirror. What's that? There's a jet of flame springing from the mirror and it leaps right at the advancing men. It strikes them head on. Lord, they're turning into flames. Now the whole field's caught up by the woods, the fires, the gas tanks of the automobiles are spreading everywhere. Coming this way now, about 20 yards to my right.
Ladies and gentlemen, due to circumstances beyond our control, we are unable to continue the broadcast from Grover's Mill. Evidently, there's some difficulty with our field transmission. However, we will return to that point at the earliest opportunity. In the meantime, we have a late bulletin from San Diego, California. Professor Indelkofer, speaking at a dinner of the California Astronomical Society,
express the opinion that the explosions on Mars are undoubtedly nothing more than severe volcanic disturbances on the surface of the planet. We continue now with our piano interlude.
C'était donc le meilleur canular de l'histoire de la radio, le roman La guerre des mondes de H.G. Wells, adapté en pièce radiophonique et lu par Orson Welles en 1938. Mais comme il avait modernisé et américanisé toutes les références, intégré des bulletins météo, des extraits musicaux et interruptions comme dans du vrai direct, et qu'en plus passait sur une autre fréquence une émission très populaire, de pauvres auditeurs arrivés en plein milieu ont vraiment cru que les Martiens attaquaient, créant une vague de panique dans les États-Unis. Comme quoi, faut pas croire tout ce qu'on entend à la radio.
Et non.
Alors, comment faire plus fort que les extraterrestres ? Que diriez-vous de combattre des héros et des dieux ? Je veux bien sûr parler de l'Iliade d'Homère, où les armées s'affrontent devant les remparts de Troie et où l'Olympe met une fois de plus le nez dans les affaires des hommes. Traduit par le Comte de Lille, extrait du chant 5, Athéna vient de parler, et c'est Thomas et Camille qui prêtent leur voix à ce parangon de la poésie épique.
Ayant ainsi parlé, elle saisit de la main Sthénélos pour le faire descendre du char, et celui-ci sauta promptement à terre. Et elle monta auprès du divin Diomède, et les cieux du char gémit sous le poids, car il portait une déesse puissante et un brave guerrier. Et Pallas Athéna, saisissant le fouet et les rênes, poussa vers Arès les chevaux au sabot massif. Et le dieu venait de tuer le grand Périphas, le plus brave des Étoliens, illustre fils d'Océsios. Et, tout sanglant, il le dépouillait. Mais Athéna mit le casque d'Hadès pour que le puissant Arès ne la reconnût pas. Et dès que le fléau des hommes, Arès, eut aperçu le divin Diomède, il laissa le grand Périphas étendu dans la poussière, là où, l'ayant tué, il lui avait arraché l'âme, et il marcha droit à l'habile cavalier Diomède. Et quand ils se furent rapprochés l'un de l'autre, Arès le premier lança sa pique d'airain par-dessus le joug et les rênes des chevaux, voulant arracher l'âme de Thudéide. Mais la divine Athéna aux yeux clairs, saisissant le trait d'une main, le détourna du char, afin de le rendre inutile. Puis, Diomède, hardi au combat, lança impétueusement sa pique d'airain, et Pallas Athéna dirigea dans le bas-ventre, sous le ceinturon. Et le dieu fut blessé. Et la pique, ramenée en arrière, déchira sa belle peau. Et le féroce Arès poussa un cri aussi fort que la clameur de 10 000 guerriers se ruant dans la mêlée. Et l'épouvante saisit les Achéens et les Troyens, tant avait retenti le cri d'Arès insatiable de combat. Et, comme apparaît au-dessous des nuées une noire vapeur chassée par un vent brûlant, ainsi Arès apparut au brave Thudéide Diomède, tandis qu'il traversait le vaste Ouranos, au milieu des nuages. Et il parvint à la demeure des dieux, dans le haut Olympos. Et il s'assit auprès de Zeus Cronion, gémissant dans son cœur. Et, lui montrant le sang immortel qui coulait de ses blessures, il lui dit, en paroles ailées,
« Père Zeus, ne t'indigneras-tu point de voir ces violences ? Toujours, nous, les dieux, nous nous faisons souffrir cruellement pour la cause des hommes. » Mais c'est toi qui es la source de nos querelles, car tu as enfanté une fille insensée, perverse et inique. Nous, les dieux olympiens, nous t'obéissons, et nous te sommes également soumis. Mais jamais tu ne blâmes ni ne réprimes celle-ci, et tu lui permets tout, parce que tu as engendré seule cette fille funeste qui pousse le fils de Thudeus, le magnanime Diomède, à se jeter furieux sur les dieux immortels. Il a blessé d'abord la main d'Aphrodite, puis il s'est rué sur moi, semblable à un dieu. Et si mes pieds rapides ne m'avaient emporté, je subirais 1000 maux, couché vivant au milieu des cadavres et livré sans force au coup de l'airain.
Merci Tom, merci Camille, et merci Bonnie Tyler, qui se demande, et c'est bien normal, où sont passés les beaux héros musclés des temps anciens. Également entendu dans Shrek 2. À présent, place à un roman inclassable, La route des Flandres de Claude Simon, qui brasse plusieurs guerres au fil de ses phrases interminables, où les virgules sont rares et les points en voie d'extinction.
Et qui n'a pas été entendu dans Shrek 2, étrangement.
Tais-toi Thomas. Le passage qui suit se concentre sur la mort du capitaine de Reichach, lors de la débâcle de 40, abattu par un avion alors qu'il était au milieu de la route sur son cheval. Je vous le dis parce que c'est un peu facile de perdre le fil. Willem, c'est à toi, bonne chance. Mais si tu deviens violet, je t'arrêterai de lire.
J'ai compris cela. J'ai compris que tout ce qu'il cherchait, espérait depuis un moment, c'était de se faire descendre. Et pas seulement quand je l'ai vu rester là, planté sur son cheval, arrêté, bien exposé, au beau milieu de la route, sans même se donner la peine ou faire semblant de se donner la peine de le pousser jusque sous un pommier. Je suppose qu'il devait être persuadé qu'il faisait là quelque chose d'absolument sensationnel. Et d'ailleurs, pourquoi l'aurions-nous détrompé, puisque comme cela, il mourrait au moins content, béat même, mourant à côté d'eux et comme un de Reichach. Mieux valait donc qu'il le croie, mieux valait donc qu'il soit idiot, qu'il ne se demande pas ce qu'il y avait derrière ce visage, à peine légèrement ennuyé, légèrement impatient, attendant, nous faisant, ou plutôt faisant au règlement du service en campagne, et aux dispositions prescrites en cas d'attaque, par avion volant en bas et mitraillant, la concession d'attendre, jusqu'à ce qu'il se soit éloigné et que nous sortions du fossé, se tournant légèrement sur sa selle, un peu impatienté, mais se contentant, nous montrant ce visage toujours impénétrable, dépourvu d'expression, attendant simplement que nous soyons de nouveau à cheval, tandis qu'il disparaissait, pas plus gros que des points maintenant, au-dessus de l'horizon, puis, dès que nous fûmes en selle, repartant, poussant son cheval d'une imperceptible pression des jambes. Le cheval se remettant, semblait-il, en marche de lui-même, et toujours au pas, naturellement, sans précipitation, sans lenteur non plus, et pas nonchalamment non plus, simplement au pas. Je suppose qu'il n'aurait pas pris le trot pour tout l'or du monde, qu'il n'aurait pas donné un coup d'éperon, pas donné sa place pour un boulet de canon. C'est le cas de le dire, il y a comme ça des expressions qui tombent à pic. Au pas, donc, cela devait faire aussi partie de ce qu'il avait commencé 4 ans plus tôt et avait décidé, était en train de finir, ou plutôt de chercher à terminer, avançant tranquillement, impassible.
Bien joué, Will. Cette musique s'appelle le Blitz. Par contre, elle est tirée des chroniques de Narnia. Aujourd'hui, c'est la guerre d'après les geeks. Mais laissez-moi vous présenter le monsieur qui va faire votre journée. Sun Tzu, auteur du tout premier traité de stratégie militaire, l'art de la guerre. La guerre en littérature, l'art de la guerre de l'art. Avouez que ça vous donne la chair de poule tellement ça tombe pile poil. Traduction du père Amyot. C'était l'idée de Camille, donc c'est à elle que revient l'honneur de la lecture.
Article 8. De l'art d'attaquer par le feu.
Sun Tzu dit « Les différentes manières de combattre par le feu se réduisent à 5. La première consiste à brûler les hommes. La deuxième, à brûler les provisions. La troisième, à brûler les bagages. La quatrième, à brûler les arsenaux et les magasins. Et la cinquième, à utiliser des projectiles incendiaires. »
Avant que d'entreprendre ce genre de combat, il faut avoir tout prévu. Il faut avoir reconnu la position des ennemis. Il faut s'être mis au fait de tous les chemins par où ils pourraient s'échapper ou recevoir du secours. Il faut s'être muni des choses nécessaires pour l'exécution du projet. Il faut que le temps et les circonstances soient favorables. Préparez d'abord toutes les matières combustibles dont vous voulez faire usage. Dès que vous aurez mis le feu, faites attention à la fumée. Il y a le temps de mettre le feu. Il y a le jour de le faire éclater. N'allez pas confondre ces deux choses. Le temps de mettre le feu est celui où tout est tranquille sous le ciel, où la sérénité paraît devoir être de durée. Le jour de le faire éclater est celui où la lune se trouve sous une des 4 constellations Qi, Pi, Yi, Chen. Il est rare que le vent ne souffle point alors, et il arrive très souvent qu'il souffle avec force. Les 5 manières de combattre par le feu demandent de votre part une conduite qui varie suivant les circonstances. Ces variations se réduisent à 5. Je vais les indiquer afin que vous puissiez les employer dans les occasions. 1. Dès que vous aurez mis le feu, si après quelque temps, il n'y a aucune rumeur dans le camp des ennemis, si tout est tranquille chez eux, restez vous-même tranquille, n'entreprenez rien. Attaquer imprudemment, c'est chercher à se faire battre. Vous savez que le feu a pris, cela doit vous suffire. En attendant, vous devez supposer qu'il agit sourdement. Ses effets n'en seront que plus funestes. Il est au-dedans. Attendez qu'il éclate et que vous envoyez des étincelles au dehors.
vous pourrez aller recevoir ceux qui ne chercheront qu'à se sauver. 2. Si peu de temps après avoir mis le feu, vous voyez qu'il s'élève par tourbillon, ne donnez pas aux ennemis le temps de l'éteindre. Envoyez des gens pour l'attiser, disposez promptement toutes choses et courez ce combat. 3. Si malgré toutes vos mesures et tous les artifices que vous aurez pu employer, il n'a pas été possible à vos gens de pénétrer dans l'intérieur, et si vous êtes forcé à ne pouvoir mettre le feu que par le dehors, observez de quel côté vient le vent. C'est de ce côté que doit commencer l'incendie. C'est par le même côté que vous devez attaquer. Dans ces sortes d'occasions, qu'il ne vous arrive jamais de combattre sous le vent. 4. Si pendant le jour, le vent a soufflé sans discontinuer, regardez comme une chose sûre que pendant la nuit, il y aura un temps où il cessera. Prenez là-dessus vos précautions et vos arrangements. 5. Un général qui, pour combattre ses ennemis, sait employer le feu toujours à propos, est un homme véritablement éclairé.
Puissant que les ouragans, soit plus ardent que le feu des volcans, secret de l'Orient.
Merci Camille, et longue vie à Mulan, le meilleur Disney de tous les temps. La guerre est un monde machiste. Cette photo minute féministe, et après nous pourrons retourner nous taper dessus avec des grandes épées sans aucun remords. Cette fois, nous remontons encore plus loin que la Chine du VIe siècle avant Jésus-Christ jusqu'au IIIe âge de la Terre du Milieu. Vous voici spectateurs de la bataille du gouffre de Helm. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, orc égale méchant et elfe et homme égale gentil.
Le Seigneur des Anneaux de J.R. Tolkien, deuxième partie, Les Deux Tours, chapitre 7, traduction par Francis Ledoux, lecture par Will et Caro.
L'ennemi est là, dirent les arrivants. Nous avons lâché jusqu'à notre dernière flèche et rempli le fossé d'orques. Mais cela ne les arrêtera pas longtemps. Ils escaladent déjà le talus en maints endroits, serrés comme des fourmis en marche. Mais nous leur avons appris à ne pas porter de torches.
Il était à présent minuit passé. Le ciel était totalement noir et l'immobilité de l'air lourd annonçait l'orage. Un éclair aveuglant roussit soudain les nuages. La foudre ramifiée frappa les collines à l'est. Pendant un instant éblouissant, les guetteurs des murs virent tout l'espace qui les séparait du fossé, éclairé d'une lumière blanche. Ils bouillonnaient et fourmillaient de formes noires, les unes larges et trapues, les autres grandes et sinistres, avec de hauts casques et des boucliers noirs. Des centaines et des centaines se déversaient au bord du fossé et à travers la brèche. La marée sombre montait jusqu'au mur, d'escarpement en escarpement. Le tonnerre roulait dans la vallée, une pluie cinglante se mit à tomber.
Des flèches, aussi drues que la pluie, sifflaient au-dessus des parapets et tombaient en cliquetant et ricochant sur les pierres.
Les assaillants s'arrêtèrent, déroutés par la menace silencieuse du roc et du mur. À chaque instant, des éclairs déchiraient les ténèbres. Puis, les orques poussèrent des cris aigus, agitant lances et épées, et tirant une nuée de flèches sur tout ce qui se révélait sur les parapets, et les hommes de la marche, confondus, croyaient voir un grand champ de blé noir, secoué par une tempête guerrière, et dont chaque épi luisait d'une lumière barbelée.
Des trompettes d'airain retentirent. Le flot des ennemis déferla, une partie se porta contre le mur du gouffre, et une autre vers la chaussée et la rampe menant aux portes du fort Lecor. Là étaient rassemblés les plus énormes des orques, et les montagnards sauvages du pays de Dun. Après un moment d'hésitation, ils se portèrent en avant. Il y eut un éclair, et l'on put voir, blasonné sur chaque casque et chaque bouclier, l'affreuse main de l'Isengard. Ils atteignirent le sommet du rocher, ils s'avancèrent vers les portes.
Alors, enfin, vint une réponse. Une tempête de flèches les accueillit en même temps qu'une grêle de pierre. Ils fléchirent, se débandèrent et s'enfuirent. Ils chargèrent encore et se débandèrent à plusieurs reprises. Et, chaque fois, comme la marée montante, ils s'arrêtaient en un point plus élevé. Les trompettes retentirent de nouveau, et une foule d'hommes hurlants bondit en avant. Ils tenaient leurs grands boucliers au-dessus d'eux comme un toit, et ils portaient parmi eux les troncs de deux puissants arbres. Derrière se pressaient des archers orques, qui lançaient une grêle de traits sur les archers des murs. Ils atteignirent les portes. Les arbres, balancés par des bras vigoureux, frappèrent les battants avec un grondement fracassant. Quand un homme tombait, écrasé par une pierre précipitée d'en haut, deux autres s'élançaient pour prendre sa place. Maintes et maintes fois, les grands béliers se balancèrent et s'abattirent.
Caro, merci Will pour cette lecture à deux voix donc.
Mais de rien, très cher.
Je t'en prie.
Sale espion d'historien, il va nous voler notre précieux. Pardon.
Belle imitation, hein, faut le souligner quand même.
J'espère que la musique que nous avons passée se passe d'explication. Défendre sa forteresse et son pays contre le mal incarné, cela va de soi. Mais qu'advient-il lorsqu'on est envoyé dans un pays étranger pour mener une guerre dont on ne comprend ni la stratégie ni le sens? On tire sur des civils, on hérite de réfléchir et on marche. Dans « The Things They Carried », les choses qu'il portait, recueil de nouvelles d'inspiration autobiographique, l'auteur américain Tim O'Brien est un des premiers à parler du stress post-traumatique chez les vétérans de la guerre du Vietnam. Tout au long de la première nouvelle, il énumère les choses portées par les soldats. L'équipement, avec les poids précis de chaque objet, leur nourriture, leurs effets personnels, leur gris-gris. Et puis, toutes les choses immatérielles qui pèsent pourtant sur leurs épaules. La mémoire, la peur, l'espoir, la mort, la culpabilité et la lâcheté.
L'anaphore, les choses qu'il portait, se répètent régulièrement, à chaque fois plus lourdes, jusqu'à ce que les personnages semblent s'enfoncer dans le sol vietnamien. Écoutez plutôt.
They carried useless stationery and pencils and pens. They carried sterno, safety pin, trip flare, signal flare, spools of wire, razor blades, chewing tobacco, liberated joysticks and statuettes of the smiling Buddha, candles, grease pencils, the stars and stripes, fingernails clippers, side-out sleeveless, bush hats, bolos, and much more. They carried plastic water containers, each with a 2-gallon capacity. Some things they carried in common. Taking turns, they carried the big PRC-77 Scrambler radio, which weighed 30 pounds with its battery. They shared the weight of memory. They took up what others could no longer bear. Often they carried each other, the wounded or weak. They carried infections. They carried diseases, among them malaria and dysentery. They carried lice and ringworm and leeches and paddy alga and various rots and molds. They carried the land itself, Vietnam, the place, the soil. A powdery orange-red dust that covered their boots and fatigues and faces. They carried the sky. The whole atmosphere, they carried it. The humidity, the monsoons, the stink of fungus and decay, all of it. They carried gravity. They moved like mules. They plodded along slowly, dumbly, leaning forward against the heat, unthinking, all blood and bone, simple grunts, soldiering with their legs, toiling up the hills and down into the paddies and across the rivers and up again and down, just humping, one step and then the next and then another, but no volition, no will. Because it was automatic, it was anatomy, and the war was entirely a matter of posture and carriage. The hump was everything, a kind of inertia, a kind of emptiness, a dullness of desire and intellect and conscience and hope and human sensibility. Their principles were in their feet. Their calculations were biological. They had no sense of strategy or mission. They carried their own lives. The pressures were enormous. In the heat of early afternoon, they would remove their helmets and flak jackets, walking bare, which was dangerous, but which helped ease the strain. They would often discard things along the route of march. Purely for comfort, they would throw away rations, blow their claimers and grenades, no matter, because by nightfall, the resupply choppers would arrive with more of the same. The arsenals at Hartford, the Minnesota forest, the machine shops, the vast fields of corn and wheat, they carried like freight trains. They carried it on their backs and shoulders. And for all the ambiguities of Vietnam, all the mysteries and unknowns, there was at least a single abiding certainty that they would never be at a loss for things to carry.
Merci Caroline pour cette magnifique lecture en version originale.
Mais de rien Camille. C'était Jimi Hendrix jouant The Star Spangled Banner, la bannière étoilée, l'hymne des États-Unis, à Woodstock en 1969. Comme d'autres artistes de la contre-culture, Hendrix dénonce ici la guerre du Vietnam en faisant imiter à sa guitare le sifflement des lâchers de bombes, créant un superbe doigt d'honneur au patriotisme américain. Au fur et à mesure qu'on avance dans la modernité, vous avez remarqué, les guerres sont de plus en plus insensées. Et la bête noire du XXe siècle en matière d'extermination massive, c'est bien sûr la Deuxième Guerre mondiale et la Shoah. Dans les récits de témoignages, l'œuvre de Georges Champrin, déporté au camp Buchenwald, est incontournable. et son livre le plus connu, L'écriture ou la vie, met en lumière la difficulté de raconter ses horreurs. Ça n'empêchera pas Thomas d'essayer de le lire.
Il y aura des survivants, certes. Moi, par exemple, me voici survivant de service, opportunément apparu devant ces trois officiers d'une mission alliée pour leur raconter la fumée du crématoire, l'odeur de chair brûlée sur les Terzberg, les appels sous la neige, les corvées meurtrières, l'épuisement de la vie, l'espoir inépuisable, la sauvagerie de l'animal humain, la grandeur de l'homme, la nudité fraternelle et dévastée du regard des copains. Mais peut-on tout raconter? Le pourra-t-on? Le doute me vient dès ce premier instant. Nous sommes le 12 avril 1945, le lendemain de la libération de Buchenwald. L'histoire est fraîche, en somme. C'est encore au présent, la mort. Ça se passe sous nos yeux, il suffit de regarder. Ils continuent de mourir par centaines, les affamés du petit camp, les juifs rescapés d'Auschwitz. La réalité est là, disponible, la parole aussi. Pourtant, un doute me vient sur la possibilité de raconter. Non pas que l'expérience vécue soit indicible, elle a été invivable, ce qui est tout autre chose, on le comprendra aisément. Autre chose qui ne concerne pas la forme d'un récit possible, mais sa substance. Non pas son articulation, mais sa densité. Ne parviendront à cette substance, à cette densité transparente, que ceux qui sauront faire de leur témoignage un objet artistique, un espace de création ou de recréation. Seul l'artifice d'un récit maîtrisé parviendra à transmettre, partiellement, la vérité du témoignage. Mais ceci n'a rien d'exceptionnel. Il en arrive ainsi de toutes les grandes expériences historiques. On peut toujours tout dire, en somme. L'ineffable dont on nous rebattra les oreilles n'est qu'alibi ou signe de paresse. On peut toujours tout dire. Le langage contient tout. On peut dire l'amour le plus fou, la plus terrible cruauté. On peut nommer le mal, son goût de pavot, ses bonheurs délétères. On peut dire Dieu, et ce n'est pas peu dire. On peut dire l'avenir, les poètes s'y aventurent, les yeux fermés, la bouche fertile. On peut tout dire de cette expérience. Quitte à tomber dans la répétition et le ressassement. Quitte à ne pas s'en sortir, à prolonger la mort, le cas échéant. À la faire revivre sans cesse, dans les plis et les replis du récit, à n'être plus que le langage de cette mort, à vivre à ses dépens, mortellement. Mais peut-on tout entendre, tout imaginer? Le pourra-t-on? En auront-ils la patience, la passion, la compassion, la rigueur nécessaire? Le doute me vient dès ce premier instant, cette première rencontre avec des hommes d'avant, du dehors, venus de la vie. Avoir leur regard épouvanté, presque hostile, méfiant du moins, des trois officiers.
So stell ich mir die Liebe vor, ich bin nicht mehr allein, denn jemand flüstert mir zärtlich ins Ohr, heut wirst du glücklich sein.
Merci Thomas. Tiens, de la variété allemande, c'est sympa. Et si on vous dit que cette chanson romantique de Sarah Leander était diffusée en boucle le dimanche après-midi dans les haut-parleurs du camp de Buchenwald, au point de hanter sans prin jusque dans ses cauchemars? C'est tout de suite moins mièvre.
Mais nettement moins.
Par contre, si vous avez bien écouté Thomas, sans prin mentionne le 12 avril 1945, le lendemain de la libération de Buchenwald, et on n'a vraiment pas fait exprès, là je vous jure. Ça, c'est un signe divin, j'y comprends rien. Oui.
Si on peut le dire.
Allez, on a accumulé suffisamment de grains à moudre, du plus farfelu au plus déprimant, et il est à présent temps d'imiter les invités sérieux de cette JDR et de débattre un peu. J'abdique et je laisse le commandement à Willem.
Merci. Alors, j'aimerais commencer par revenir sur Samprin, justement, qui dresse dans son texte une tension assez intéressante entre ce qui peut être universel et personnel. Donc, est-ce que Samprin est un témoin de la guerre qui nous livre son expérience personnelle, ou est-ce qu'il touche à l'universel ?
Ben, les deux, mon capitaine. Oui, c'est bien un témoin, puisque c'est sa biographie. Il est cet expatrié d'Espagne, résistant dans le maquis à Joigny, qui a été effectivement déporté à Buchenwald. Mais en même temps, ce qu'il nous livre, c'est tout sauf un témoignage. C'est son antithèse. D'abord, il ne raconte pas l'horreur, mais plutôt l'antichambre de l'horreur et le cabinet de curiosité de l'horreur. L'antichambre, parce que ces récits se situent rarement véritablement dans le camp. On est soit avant, dans le train, c'est le grand voyage, on est soit après, après la libération de Buchenwald, c'est l'écriture ou la vie. Ensuite, le cabinet de curiosité, parce que quand on est dans le camp, on a un peu l'impression de voir défiler une traque à la pire inhumanité et à la plus belle humanité dans ce camp, et ça en devient insolite, comme un cabinet de curiosité. Après, quand véritablement il nous parle de l'horreur crue, quotidienne, soit il y passe très rapidement, parce que c'est la revivre, cette horreur, que d'en parler, soit alors il en fait un motif littéraire, c'est-à-dire qu'il la thématise, comme par exemple cette fumée sur les Terzberg. Et d'ailleurs, les récurrences de ces motifs littéraires montrent pour lui, l'auteur, le caractère obsédant et traumatique qu'a eu cette expérience de la guerre, des camps, etc. Et pour nous, le lecteur, c'est un moyen d'établir une familiarité, il me semble, avec justement cette expérience. Parce que la récurrence fait qu'on est familier avec cet univers de référence. Et ainsi, on peut le comprendre, on peut même être dans la compassion, peut-être, qu'un témoignage précis, détaillé, une description circonstanciée n'aurait pas réussi à nous faire rentrer dans cette compréhension et cette compassion.
Donc justement, Samprin essaie de se détacher du témoignage, comme aurait pu le faire Primo Levi, par exemple.
Oui, mais en fait, ça m'amuse beaucoup parce que ce passage me fait penser à son antithèse dans un livre de Agamben qui s'appelle « Ce qui reste d'Auschwitz », où il théorise justement l'impossibilité du témoignage, puisqu'il explique ça assez simplement, c'est que le témoin intégral du camp de concentration, c'est celui qui n'est pas revenu. C'est celui qui a été détruit par ce système. Et finalement, tout survivant, donc toute personne qui a capacité de témoigner, de raconter ce qui s'est passé, est déjà une exception. Quelqu'un qui a, pour une raison qui lui est propre, réussi à survivre et à sortir du camp. Donc finalement, le véritable témoignage, on ne l'aura jamais, parce que c'est celui qui, clairement, ne peut pas être donné puisque la personne est décédée dans le camp. Et donc finalement, c'est un peu l'inverse que raconte Primo Levi, puisque lui, c'est une personne qui essaye de raconter, mais qui raconte toujours en se distançant, en disant qu'il était dedans, mais qu'il a réussi parce qu'il était chimiste, parce qu'il était, il avait un destin un peu particulier à survivre.
Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut avoir vécu une guerre et on peut aussi décider de rompre avec le témoignage, notamment Tolkien, par exemple, puisque Tolkien a vécu une guerre. Et justement, lui, ce qu'il essaie de faire, c'est donc de s'éloigner un petit peu du témoignage direct. Et justement, est-ce que l'univers de fantasy, ça rend la guerre un peu plus populaire, finalement, plus audible pour le lecteur ?
C'est sûr qu'elle est plus audible quand on a des vrais héros et des vrais méchants, c'est toujours plus simple. Je pense que la différence ici, c'est aussi une différence de but, puisque Tolkien, ce qu'il veut, c'est raconter une histoire du point de vue d'un linguiste, d'un médiéviste. Il invente la langue des elfes, après il invente une histoire pour aller avec, parce qu'une langue ne se développe pas sans histoire, et après, à partir de là, se développe l'histoire d'un petit hobbit qui est dans un trou et puis qui trouve un anneau. Bon. Et à partir de là, il va développer tout le monde de la Terre du Milieu. Donc, les guerres, il les voit vraiment d'un point de vue factuel, c'est-à-dire des choses, les mouvements des hommes, le mouvement des armées, et est-ce que le souvenir de la guerre de 14 transparaît dans Le Seigneur des Anneaux ? Peut-être, mais est-ce que c'est vraiment important ?
Je crois que l'épique est vraiment un motif ici, et un moteur de romanesque et d'action, alors qu'il n'y a vraiment pas de vocation au témoignage, c'est purement de l'esthétisme et une manière aussi de produire de l'histoire, de l'aventure, finalement.
Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que même dans la façon dont il traite en médiéviste la guerre, les charges de la cavalerie et des chevaliers n'est qu'une toute petite partie de ce qu'était véritablement la guerre sans évolution. C'est une idéalisation d'une conception chevaleresque, mais c'est tout. Ça n'a pas, donc même sur ce point de vue-là, il n'essaye pas de rendre une réalité quelconque. Donc non.
Ce qui est assez intéressant, c'est aussi justement de voir que la guerre, c'est plus une sorte de fait pour faire avancer l'intrigue, alors qu'il y a beaucoup de, je vais pas dire des études, mais beaucoup de gens qui essaient justement de rapprocher les guerres du Seigneur des Anneaux avec des guerres qu'il aurait pu vivre, justement. Donc c'est assez intéressant, on essaie toujours aussi de raccrocher son art, son écrit, à sa biographie aussi. Donc, plus fort que les héros, il y a les dieux. Et justement, chez Tolkien, on a des héros, genre Aragorn et autres Legolas qui font du surf sur les escaliers.
C'est classe.
Ouais, mais c'est un elfe, donc il a le droit. On a des héros encore plus forts chez, justement, Homer, puisqu'ils arrivent même à tuer les dieux, ou en tout cas à les blesser. Et donc, justement, quel aperçu de la guerre ça peut nous donner l'intervention des dieux, justement, l'atmosphère guerrière.
Ça va dans cette atmosphère, finalement, de valorisation de la figure héroïque et de la valorisation de l'individu guerrier dans son action exemplaire. Parce que là, tu parles des héros de Seigneur des Anneaux, mais Seigneur des Anneaux, on a aussi une espèce de scène de bataille un peu qu'on voit en contre-plongée avec tous les petits soldats qui courent. Là, on est vraiment au plus près de la figure même du héros, donc celui qui va jusqu'à défier le dieu, l'affronter directement. Enfin, moi, je trouve cette phrase magnifique. Le dieu fut blessé. Le dieu qui aurait été allongé vivant au milieu des cadavres. Enfin, c'est quand même une image qui est assez belle, je trouve. Et finalement, on est vraiment dans ce concept d'idéalisation de la guerre comme moment où on peut... c'est grec, enfin, c'est toi l'historien qui va nous en parler. Mais oui, il s'agit de faire preuve de son courage et de sa valeur par le combat. Donc c'est l'activité noble par excellence et l'activité des dieux.
En même temps, ce qui est intéressant, c'est que bon, ça interroge aussi l'identité du sujet, parce qu'on voit, tu le disais Will, mais on a un héros, un homme, qui arrive à terrasser un dieu. Et donc là, c'est la hiérarchie, on va dire, bien ordonnée entre la sphère des dieux et la sphère des hommes qui s'en vient... ici complètement bouleversé, et on a une transgression qui semble donner à l'homme un surplus de dignité.
C'est assez lié justement aussi au changement dans la guerre, justement, enfin, notamment à l'époque grecque, par exemple, justement le fait qu'il y a de plus en plus de gens qui peuvent combattre.
Oui, alors effectivement, se produit entre 700 et 650 ce qu'on appelle la révolution hoplitique, ce qui fait que l'image qu'on a dans l'Iliade ne correspond pas à la réalité de la guerre grecque, au sens où émerge une bourgeoisie qui va avoir les capacités financières de l'aristocratie qui se battait sur les chevaux, etc. Et donc, va y avoir l'émergence de ce qu'on appelle les hoplites, c'est-à-dire ces combattants lourdement armés à pied, qui vont émerger et prendre la place. Et les exploits individuels des aristocrates décrits dans l'Iliade vont céder la place à la cohésion de corps des hoplites, qui sont une symbolisation de la cohésion de la cité.
Du dieu à l'hoplite, et de l'atmosphère grandiose au concret et au terrain, avec Sun Tzu, justement. Justement, qu'est-ce qu'on peut dire de Sun Tzu, qui justement fait un écrit sur la guerre, qui est quand même très extraordinaire parmi les lectures qu'on avait, puisque c'est une sorte de manuel du parfait petit combattant.
Mais j'ai un peu hésité à le proposer, parce qu'on est dans une thématique littérature et guerre, et enfin, le terme de littérature qui est inventé au XVIIe s'appliquerait, enfin, on se demande même s'il peut s'appliquer à cette espèce de mode d'emploi de comment réussir une guerre. Et c'est vrai que, enfin, bon, à lire d'un point de vue extérieur, enfin, qui est le nôtre, c'est assez amusant parce qu'on a vraiment l'impression d'avoir une espèce de recette de cuisine comme ça de comment vous faites. Alors vous prenez le matériel, vous mettez le feu. Ça rappelle un peu, enfin, pour ma culture qui est plutôt latiniste, des traités qui étaient très concrets, des latins, qui finalement s'attachent à des choses très triviales pour nous et qui finalement avaient une importance.
Oui, le De Natura Rerum par exemple de Pline.
Exactement, je pensais à ça, merci.
Mais de rien.
Mais après ce qui est intéressant surtout, c'est de voir, on pourrait se dire pourquoi est-ce qu'on lit encore ça alors que c'est des espèces de recettes qui sont forcément dépassées dans la guerre moderne. Mais ce qui est très intéressant dans l'art de la guerre, c'est qu'il y a toute une donnée psychologique qui fait que ce livre est encore d'actualité. Enfin, pour l'anecdote, il est encore dans les lectures conseillées aux agents de la CIA. Donc c'est bien qu'on se dit que cette manière d'harceler l'ennemi ou de faire la guerre, finalement, a encore une pertinence. Et donc je pense qu'on se rapproche aussi de ta question initiale qui était l'universel et le particulier. Là, on a une guerre très précise, des méthodes très précises et finalement une continuité...
Oui, et pour préciser encore un petit peu, c'était aussi dans les lectures obligatoires pour tous les agents du KGB. S'il y en a parmi nous.
On est dans un bunker, tu es tout arrivé.
Et justement, ce qui est assez intéressant avec. Ce qui est assez intéressant avec Sun Tzu, c'est que justement, c'est un peu l'essence de la guerre psychologique qui est aussi la guerre au Vietnam. Parce qu'on a fait beaucoup de liens entre l'art de la guerre de Sun Tzu et la guerre du Vietnam. Et là, dans le texte d'O'Brien, c'est plutôt l'art de ne pas faire la guerre finalement.
Oui, c'est vraiment l'art de ne pas faire la guerre, puisqu'on. C'est des soldats qui sont dans une situation où ils ne peuvent pas voir ce qui se passe. Enfin, ils n'ont pas de but, ils ne savent pas pourquoi ils mènent cette guerre. Et d'ailleurs, c'est intéressant, Camille nous avait regardé sur Wikipédia, et Sun Tzu faisait partie des lectures obligatoires de la CIA. Donc au niveau guerre psychologique, on est en plein dedans. Mais en même temps...
Mais je trouve ce qui est drôle, en rapprochant, on ne peut pas vraiment rapprocher ces deux textes, mais c'est qu'on voit que dans les deux, il y a une espèce d'attention au concret, au détail, au matériel, puisqu'on a toute cette espèce de... d'énumération de l'équipement que portaient les soldats, mais c'est dans deux buts totalement opposés, puisque dans l'art de la guerre, c'est des détails et des choses concrètes qui font qu'on peut maîtriser le terrain, alors que dans le texte de O'Brien, au contraire, c'est des choses qui entravent, qui alourdissent, et c'est que cette anaphore qui se répète, ça crée un effet de style où nous-mêmes, le texte nous pèse quand on le lit, et c'est vraiment un effet totalement original et très différent.
Oui, on a ce mélange de matériel, immatériel, et à la fois, ça leur pèse, en même temps, c'est ce qui leur permet de se raccrocher à la vie. Mais t'as raison, ça, ce rythme de la phrase qui nous emporte et qui crée aussi une beauté dans cette guerre qui n'a aucun sens et aucun esthétique. Et du coup, ça nous fait aussi un peu penser à Claude Simon.
Oui, justement, qui est un très grand styliste de la phrase, puisque chez Claude Simon, si vous trouvez un point toutes les cinq pages, vous êtes heureux.
C'est dire.
Mais c'est justement très intéressant, parce que c'est aussi toute une façon de de faire voir aussi c'est le travail de la mémoire, de comment recomposer quand on a vécu quelque chose d'aussi énorme et traumatisant, surtout dans la route des Flandres, il n'y a pas que la guerre, justement, il y a aussi plein d'histoires de... est-ce que Reichach, le chevalier de Reichach, s'est suicidé ou non? C'est une question que se pose le narrateur. C'est-à-dire que, est-ce que cet homme-là qui est à cheval devant l'arrivée des avions, est-ce que, en fait, finalement, ce n'était pas un suicide qu'il aurait prévu dès le départ? Et justement, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'on voit la différence entre une façon de faire la guerre très archaïque, finalement, enfin, le cheval, face aux avions. Et justement, c'est ça aussi, c'est... L'héroïsme dans La Route des Flandres est un héroïsme suicidaire, justement, puisqu'il savait qu'il n'avait aucune chance de gagner face aux avions.
Oui, puis c'est une nouvelle matière d'écrire par rapport à aussi une nouvelle matière de faire la guerre. Et c'est beau de voir cette espèce de crise, de frottement entre cette espèce d'archaïsme du combat que porte de Reichach et la réalité moderne qui finalement le terrasse.
Que aussi, oui, justement, cette espèce d'idée de travail de la mémoire. Puis en plus, Claude Simon brasse plusieurs guerres, donc voilà. Et c'est assez drôle, parce que finalement, cette opposition entre... la guerre et les conceptions de la guerre, ça peut aussi faire penser à un autre personnage historique.
Oui, c'est ça, l'histoire parfois se répète, même si c'est un peu cliché de dire ça. Mais on trouve cette différence entre une conception de la guerre et des évolutions techniques, par exemple dans la biographie de Jacques de Lalain, qui est le chevalier du XVe siècle, qui a remporté énormément de pas d'armes, etc., donc le chevalier plus, et qui va mourir d'une façon mais complètement anodine et, on va dire, stupide. Lors siège du château de Pouques, le 4 juillet 1453, il se prend un boulet de canon qui lui arrache le sommet de la tête et ainsi disparaît le héros de tant de pas d'armes. Et donc voilà, on a une conception chevaleresque. C'est lui, le grand héros, qui se fait tuer par cette évolution technique de l'artillerie. Quoi.
Et ce qui est aussi assez marquant avec les guerres, la guerre moderne, c'est aussi que ça s'en prend aux civils. Il y a un très beau passage dans La Route des Flandres où le narrateur, qui lui est un soldat, passe dans une ville où tout le monde se cache, etc., pour justement essayer d'échapper aux avions qui, finalement, rasent et mitraillent sans faire de distinction entre les civils et les soldats. Donc, voilà. et donc, justement, la guerre, c'est violent.
C'est vraiment la phrase importante de l'émission, je pense.
C'est ça qu'il faut retenir.
Peut-être mentionner le texte dont on n'a pas parlé et qui parle de radio.
Oui.
Les civils, les militaires.
Les martiens.
Oui, les martiens. Les martiens qui leur sont supérieurs, qui ont des moyens technologiques dont les humains ne peuvent pas rêver. Donc, les humains ne peuvent absolument pas réagir. Enfin, il n'y a aucune gloire, malgré le côté très épique du titre « La guerre des mondes ». En fait, ils se font tous décimer. Et à la fin, les extraterrestres sont vaincus grâce à un microbe. Donc, comme quoi...
Donc, gloire aux microbes. Si on a des scientifiques dans la salle, ne combattez pas les microbes, ce serait bien. Arrêtez de vous laver les mains, on fera les martiens plus vite. Nous espérons, cependant, lecteur, avoir pu rassasier tes oreilles, non pas de microbes, mais de magnifiques textes parlant de la guerre.
Voilà, donc les yeux et les oreilles, c'est terminé avec un peu de retard, et on vous laisse en pâture aux lycéens. Nous espérons, à travers cette petite sélection de textes qui nous ont marqués, nous, et qui ont marqué l'histoire littéraire, vous avoir offert un éclairage intéressant et radiophonique sur la littérature et la guerre. Merci à mes collecteurs, merci au public,
merci
qui était
toi.
Très sage.
Merci.
De rien,
merci
de rien.
Merci tout le monde.
Si vous avez aimé notre manque de sérieux, nous faisons des émissions deux fois par mois à retrouver sur le site de Transistor, exemple de thèmes, la peur, la confiture, les pieds.
C'est pas la taille qui compte.
Et si vous avez détesté nos lectures ou que vous déplorez l'absence de vos œuvres fétiches sur la guerre, allez donc fourrer le nez dans un livre, connu, inconnu, ancien, récent, intelligent, très très bête, peu importe, tant que vous écoutez sa voix, tant que vos yeux ont des oreilles.